bonjour à tous. Bienvenue pour cette conférence sur donc la narration et les machines.
C'est pas mal d'être obligé de lire en plein de programme.
Non, mais je lis pour être sûr. Donc, on va discuter on va essayer de discuter de tous ces sujets de narration interactive, de narration procédurale ou en tout cas de tout ce qui va dans le jeu vidéo par la machine être assujetti à la narration, les outils qu'on va pouvoir utiliser dans le jeu vidéo pour raconter des histoires ou justement créer par ces outils des histoires que les joueurs vont se faire eux-mêmes. Donc on va peut-être commencer par une présentation des intervenants.
Vous entendez,
est-ce que tout le monde entend ? On va tester après avec...
C'est encore moi qui commence. Moi, je m'appelle Jeanne Rousseau, je suis une des fondatrices et directrice du studio Spiders, donc un studio qui est spécialisé dans les jeux de rôle en jeux vidéo.
Ok, moi c'est William, cofondateur et game designer pour un petit studio de 6 personnes basé à Montpellier qui s'appelle Swing Swing Submarine. Nous, on est plus habitués, en fait, on essaye d'explorer à la fois la narration et beaucoup aussi la réflexion. On a plutôt des jeux de puzzle ou d'exploration. Voilà.
Et moi, je suis Laurent Jeunefort, je suis un peu l'imposteur du groupe puisque je suis romancier essentiellement. Et j'ai travaillé sur 3 jeux vidéo, dont From Dust. Voilà.
Alors non, moi je suis désolée, au contraire, t'es notre caution intellectuelle en fait. Tu sais bien, nous dans le jeu vidéo, on n'est pas très intelligents, on fait des trucs pour les enfants, tout ça. Donc au contraire, tu relèves le niveau par ta simple présence.
Mais je fais de la science-fiction, c'est pas sérieux non plus, t'inquiète
si,
pas.
Si, c'est la vraie part de culture ici, à la table.
Heureusement que t'es là.
Et donc pour ma part, Antoine Rousseau, donc directeur créatif d'EOD, petit studio nantais qui vient d'arriver. Donc on est spécialisé dans le transmédia et du coup tout ce qui est narration, on travaille beaucoup et on aime bien aussi explorer des choses, notamment sur la narration par les divers médias, etc. Donc c'est un sujet qui me passionne aussi. Donc on va essayer d'aborder des sujets, je pense, peut-être qui nous tiennent à cœur pour préciser aussi, pour éviter de partir trop pour recentrer un petit peu la discussion. Et je propose à chacun d'aborder des sujets sur la narration qui l'intéresse. Peut-être que tu veux commencer, William, sur...
Joanne avait l'air de vouloir.
Ah bah si elle a envie et qu'elle meurt d'envie de discuter.
Une des premières choses à dire, je pense, qui va rejoindre, j'espère, ce que vont pouvoir dire mes collègues assis à côté de moi, c'est le fait qu'écrire pour du jeu vidéo, c'est pas écrire pour du roman, c'est pas écrire pour de la BD, c'est pas écrire pour du cinéma. C'est pas moins bien, c'est pas... justement, j'en riais un peu il y a 5 minutes, mais c'est une vraie méthode d'écriture complètement différente. Ça demande de penser différemment. Et c'est vraiment un travail spécifique qui effectivement va demander peut-être des outils spécifiques aussi dans certains cas, qui va demander de se projeter différemment, puisqu'en fait contrairement au romancier qui va écrire une œuvre finalement linéaire dont le lecteur va prendre connaissance d'un seul coup, nous on est obligé de penser à une œuvre qui doit réagir à la lecture ou au jeu en l'occurrence de nos joueurs, et donc ça veut dire d'avoir une expérience qui va réagir à ses choix, à ses interrogations, même si le joueur justement reste bloqué à un moment, il va falloir réagir au fait qu'il reste bloqué et ainsi de suite, et donc on doit adapter complètement et sans arrêt se poser la question de mais là qu'est-ce qu'il aimerait faire, qu'est-ce qu'il voudrait faire, quelle possibilité il aimerait qu'on lui donne en fait, et donc on est toujours obligé de penser en arborescence, on est toujours obligé de penser en champ des possibles et pas, on raconte pas notre histoire, on raconte pas on donne pas quelque chose où la personne va être passive, au contraire notre but c'est de créer une histoire dans laquelle le joueur va pouvoir s'approprier cette histoire, va la faire sienne et la modifier au fur et à mesure de son parcours.
Oui, parce que pour le coup le jeu vidéo est vraiment par rapport à d'autres médias peut-être avant tout un outil d'interaction où on a cette notion que l'intervenant et pas seulement spectateur, il interagit directement avec l'histoire et il a fait sienne, et du coup il y a cet aspect qui est vraiment différent dans notre façon de traiter la narration pour le coup.
Oui, en fait, et je dirais même que ça spatialise l'action d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on va aller quelque part pour déclencher des choses, faire quelque chose à un endroit pour faire avancer la narration. Donc c'est il y a un côté spatialisation qui n'existe pas dans la littérature où tout se passe dans la tête. Là, il faut se représenter un espace en fait déjà. Donc on n'est plus dans un espace tout à fait mental au sens où on est dans un espace qui nous est donc imposé. Le fait même de qu'on est devant un écran et puis qu'il faille interagir, c'est déjà en soi c'est une contrainte avec laquelle la narration doit composer.
Ouais. Quand j'avais vu le sujet de la conférence, moi je m'étais dit que souvent on dit que le jeu vidéo c'est un peu différent parce qu'on est acteur alors que pour les livres ou pour le cinéma on est spectateur. Moi je suis pas d'accord avec ça déjà puisque je trouve que à partir du moment où notre cerveau voit des choses sur un écran ou est en train de lire des mots, il y a forcément des choses qui se passent. Quand on regarde un film, on n'est pas un zombie enfin, devant une image en train d'absorber le truc. On réfléchit à beaucoup de choses. Et puis il y a des gens qui vont regarder à droite, à gauche, qui vont faire des gros zooms sur des parties de l'écran sans s'en rendre compte. Donc il y a aussi des histoires différentes qui se racontent au cours d'un film. Dans un jeu vidéo, par contre, c'est vrai. Il y a de l'interactivité, donc comme Johan a dit, il faut réagir, il faut aussi penser surtout à ce que le joueur va vouloir faire par rapport au contexte qu'on a posé. Et moi je vais aussi plus loin dans la narration. Alors je sais qu'on va pas pouvoir parler de tout ce soir là, mais c'est vrai que la narration dans le jeu vidéo c'est pas juste une histoire, c'est-à-dire c'est pas juste le scénario, c'est vraiment l'interaction tout simplement. Quand on fait une partie de Tetris, et là je cite des gens bien avant moi qui avaient théorisé le jeu vidéo, quand on fait une partie de Tetris ou quand on fait une partie de FIFA même, en fait on est en train de vivre des choses, enfin des histoires créées par un système, et ces histoires vont être différentes à chaque fois. C'est pour ça que quand vous arrivez auprès de, je sais pas moi, de vos collègues de bureau ou de vos collègues, j'ai envie de dire d'école quand on est petit, et qu'on dit ah ouais hier j'ai joué à machin, je sais pas, à World of Warcraft, et j'ai tué Bidule, et après on s'est rencontré avec d'autres joueurs à tel endroit, en fait c'est le système qui a fait que les histoires se sont créées, voilà. Donc bon, je pense qu'on va quand même beaucoup parler d'histoire en tant que scénario aussi ce soir, mais voilà, je voulais juste noter que l'interactivité amenait des histoires d'elles-mêmes.
Quelque part il y a toujours une notion, peu importe. Même si un jeu n'est pas narratif, même s'il est complètement hors d'un cadre où on a envie de raconter une histoire, il y a toujours un storytelling, il y a toujours quelque chose qui se crée tout seul par le fait que les joueurs ont une action ou font quelque chose et du coup ils se créent eux-mêmes une histoire quelque part.
Enfin, mais on arrive à ça avec deux triangles et un rond. Vous mettez le triangle, le rond à gauche et vous rapprochez les deux triangles et puis dans la tête on se dit « Ah mais lui il est en train de se faire agresser ». Donc de toute façon on est des machines à fabriquer des histoires naturellement. Donc en fait après c'est comment raccrocher, comment amorcer cette pompe qu'on a tous en nous. En fait le jeu vidéo il est comme tous les arts, il a ses manières à lui, sa grammaire et ses outils pour faire en sorte de faire fonctionner cette machine en fait.
Il y a à la fois cet aspect-là et puis il y a le fait qu'effectivement nous on peut faire en sorte que le système réponde à l'idée que bah oui le triangle il a vraiment une histoire, le rond aussi, et qu'on essaye de répondre autant que possible aux attentes du joueur par rapport justement à ce véhicule-là. Pour parler d'un cas concret, dans un certain nombre des jeux qu'on a pu faire jusqu'ici, les choix qu'on laissait aux joueurs dans la narration étaient de l'ordre de choix entre différentes phrases de dialogue, et puis on le laissait être plus ou moins agressif, plus ou moins gentil, d'épargner un tel ou un tel, enfin bref, des choses assez classiques finalement. Et puis on s'est rendu compte que c'était finalement assez limité, et trop limité par rapport à ce qu'on avait envie de laisser comme liberté aux joueurs. Et on s'est dit, mais on va prendre aussi en compte ces choix de gameplay, c'est-à-dire que le fait que le joueur ait décidé de résoudre ses petites missions plutôt en utilisant l'infiltration par exemple au lieu d'y aller et d'affronter les gens directement, ou qu'il allait au contraire utiliser ses capacités de craft pour fabriquer un objet, pour essayer de négocier en offrant l'objet par exemple au type qui garde la porte, on allait prendre en compte aussi ce choix là qui est complètement en dehors du mot en fait, et qui est juste dans les choix d'action que le joueur pouvait faire. Et eh bien, on l'a intégré après dans l'histoire, c'est-à-dire que les autres personnages du jeu réagissaient à ces choix-là. Et au final, des choix de gameplay, donc des choix de système, avait un impact sur la partie vraiment histoire et narrative. Et ça, c'est des choses qui sont passionnantes à faire et à mettre en place, et que nous offre justement le jeu vidéo, je pense, par rapport à d'autres médias.
Et donc, par extension, la machine, enfin le côté informatique, et donc le fait de pouvoir prévoir ou penser des comportements ou carrément ne pas le faire. Il y a quand même aussi une notion qui arrive souvent dans les jeux vidéo et qui est très intéressante. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'aborder ce sujet-là, mais la notion de gameplay émergent avec tout ce qu'on pourrait avoir de non prévu. Parce qu'il y a ce côté aussi, quand on joue à un jeu vidéo, on s'invente une histoire, on a envie de tester hors des règles. Puisqu'au final, comme on est dans un monde est de plus en plus complet, on peut se balader, être libre, et on nous donne des guides, parce qu'évidemment, les concepteurs doivent... quelque part prévoir un cadre pour le gameplay et pour cette histoire, mais les joueurs vont se créer leur propre histoire et essayer de tester ces limites là et du coup on a aussi une deuxième histoire, une sorte de d'émergence qui va se faire par rapport à ça. Je sais pas si vous avez des avis là-dessus.
Alors pour l'instant je suis pas un grand expert du gameplay émergent justement. Pour l'instant, j'ai surtout fait des jeux où c'était ma vision qui était donnée au joueur et puis il acceptait ou pas. Après, il y avait un peu plus de narration qui se passait par rapport au puzzle et tout. Mais c'est vrai que, enfin, émergence. J'allais partir sur du procédural, mais c'est différent. Donc, on va rester sur l'émergence. C'est vrai que Minecraft, c'est, enfin, tout jeu vidéo, ce sont des règles établi par un humain, on va dire, la plupart du temps. Par des humains, surtout. Et c'est en effet presque... Enfin, moi, ça me fait peur, presque, le gameplay émergent, puisque, en gros, à chaque fois, j'ai essayé de faire mes jeux pour que les règles soient à la fois suffisamment strictes et suffisamment libres pour que les joueurs puissent faire des choses dedans sans... En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je crée un jeu, je fais en sorte de manipuler le joueur. C'est un peu, ça semble un peu machiavélique. Et des fois, chez moi, je ris tout seul en faisant oh, 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 comme ça. Mais c'est un peu ça, parce que en gros, on pose un contexte, on pose des règles, et après, on aimerait que les gens suivent. Et c'est encore mieux quand ils les suivent pas, et quand en fait, on n'attendait pas, la réaction qu'ils allaient avoir, et que ça crée des choses incroyables. Minecraft a été fait pour, on va dire, mais ça arrive dans d'autres jeux où les joueurs, par exemple, se désintéressent d'un élément de jeu précis et vont décider d'en exploiter un autre parce que bah juste c'est mieux comme ça, voilà.
Oui, j'ai plein d'éléments en tête. Enfin, on pense tout de suite, par exemple, moi je pense personnellement à Skyrim où il y a une histoire qui nous avait été écrite, qui nous est narrée, et puis tout d'un coup on a envie de partir faire autre chose et on n'a pas du tout envie de suivre. Mais et c'est il y a un moment
beaucoup de
joueurs, hein. Oui, le concepteur, en fait, l'idée que le concepteur nous impose est complètement mise de côté par le joueur, et on va explorer justement des règles qui n'ont pas été prévues.
Alors, à la défense de Bethesda, quand même, ça fait des années qu'ils font des pas très bons scénars. Mais je dis ça vraiment dans le sens où, parce que pour eux, c'est pas ça qui est important, en fait. Oui. C'est le scénario principal, il est complètement secondaire.
C'est le contexte.
C'est le contexte. Et par contre, d'ailleurs, si tu creuses un peu dans le jeu, les scénarios secondaires ou alternatifs sont souvent beaucoup plus intéressants, beaucoup plus drôles, beaucoup plus fouillés, beaucoup plus imaginatifs. Que la ligne principale où, bon, bah oui, comme à chaque fois, on est un prisonnier, on s'échappe ou on sort de prison et on n'a pas de mémoire, on n'est rien, on n'est personne, et on se découvre d'un coup qu'on est soit l'élu, soit, enfin bref, et oh mon Dieu, il faut qu'on sauve le monde. Bon, ça, je crois que même eux ont conscience du fait que c'est un truc qui est usé jusqu'à la trame. Et c'est dans tout le reste, dans la richesse de leur univers et dans toutes les quêtes de factions, dans toutes les quêtes de guildes, etc., qui donnent la richesse au jeu. Et honnêtement, la grande majorité des joueurs que je connaisse qui jouent au jeu Bethesda, et pas honnêtement bien avant Skyrim, ça fait des années que on préfère la quête des magiciens ou la quête des compagnons ou la quête des, parce qu'elles sont effectivement bien plus fun, bien plus intelligentes. Les dialogues sont plus travaillés et ainsi de suite. Alors que bon, oui, c'est rigolo d'être le Dovahkiin, mais fondamentalement, la quête, elle n'est pas intéressante, quoi.
Moi, ça me passionne parce que c'est précisément ce qu'on ne peut pas faire en littérature. pas seulement parce que ce serait compliqué à mettre en œuvre d'un point de vue purement physique, d'avoir comme ça une arborescence. Et ça a été, même quand on voit les arborescences des jeux dont vous êtes le héros, c'est des arborescences qui sont ultra simples parce qu'on peut pas faire mieux en fait que deux ou trois branches, quoi, c'est tout. Donc on peut, là où je dis que c'est assez étranger à la littérature, c'est que je crois que dans le travail de romancier ou de romancier pour faire simple, on pense pas, c'est pas une œuvre collective. C'est une œuvre purement individuelle et on ne distingue pas l'histoire du reste. Je veux dire, un roman, c'est pas qu'une histoire. C'est une façon de traiter les personnages très particulière qui peut ne pas pouvoir être traitée si on fait une histoire un peu différente. Donc le but, c'est pas de faire un éventail d'histoires plus ou moins intéressante. Le but, c'est de faire une histoire, mais la meilleure possible. Donc, et ça change tout d'une certaine manière. Mais c'est surtout là où on se distingue du jeu vidéo, c'est que tout doit être organiquement lié. C'est-à-dire le scénario, donc l'aspect purement narratif, et ce qui n'est pas narratif, justement. Et dans le jeu vidéo, on peut réellement traiter en profondeur un aspect purement narratif et articuler tout le reste autour. Ou pas d'ailleurs. Mais voilà.
En fait, en tout cas, moi, dans la manière que j'ai de concevoir mes scénarios pour nos jeux, on a souvent une grande histoire qui est en fait une liste d'événements dans l'univers qu'on a conçu qui vont arriver quoi qu'il arrive. Quels que soient les choix du joueur, et ben, à un moment, y a une bataille et elle est là. Et puis il y a toutes les petites histoires à l'intérieur, et je pense que c'est aussi un peu comme ça que fonctionnent des studios comme Bethesda et ainsi de suite, où ils conçoivent des petites histoires qui, elles, sont des choses qui vont être vraiment conçues pour que le joueur puisse les manipuler, les tordre, les endosser aussi à sa manière. Et c'est cette somme de petites histoires qui vont amener à ce qu'ils fassent partie de la grande histoire. Mais c'est vraiment comme un tissu qu'il faut le voir, beaucoup plus que comme une ligne, ou comme éventuellement deux ou trois lignes qui peuvent être jointes. C'est vraiment, oui, toute une toile. Et où le joueur va choisir les fils qui l'intéressent et tous les autres, il peut complètement les délaisser, c'est pas grave. Il vivra quand même sa propre aventure et son propre moment à lui, et il va pouvoir s'approprier tout ça. Ouais.
C'est marrant parce que en fait, ta définition me rappelle presque le mythe. C'est-à-dire, un mythe, c'est une histoire et toutes ses variantes possibles dans l'histoire. Alors pour le coup, un mythe se déroule dans l'histoire et pas spatialement, on va dire, dans une narration spatialisée, mais ça me rappelle un peu le mythe finalement. Vous créez des sortes de mythes, c'est-à-dire une histoire avec toutes ses variantes ayant du sens. Pour moi, une variante n'a d'intérêt que si elle est porteuse d'un sens particulier par rapport à cette norme qui est le tronc central.
Ça me fait très très plaisir que tu me dises ça, parce que j'ai été nourrie au mythe grec et ainsi de suite. Et effectivement, personnellement, quand j'écris, je ne veux pas qu'il y ait de bons choix, ni de mauvais d'ailleurs, du coup, forcément. Pour moi, il y a des choix, et tout s'amène à quelque chose, à une évolution différente. Mais je ne veux pas imposer l'idée qu'il y a un choix moral qui serait particulièrement bon par rapport à un autre. Ça ne m'intéresse pas tellement. Je trouve que c'est très limitatif. Et je préfère avoir quelque chose qui est simplement, c'est des expériences. Et encore une fois, idéalement, j'aime que les joueurs suivent leur instinct et suivent ce qu'ils ont envie de vivre. Et qu'après, ils se rendent compte que en fait, j'aurais pu faire un autre choix à ce moment-là. Et oui, et c'était pas inscrit. On leur dit pas, là, vous pouvez choisir entre deux ou trois trucs. Non, c'est... Ça se fait au fur et à mesure de l'action et ils en voient le résultat en arrivant au bout de ces choses-là. Quoi.
Et du coup, par rapport à ce que vous disiez, par rapport à vos deux façons de travailler quelque part, un petit peu différentes que, par rapport à ce que tu disais, finalement, qu'est-ce que vous pensez du fait que le joueur, lui, dans un jeu vidéo, souvent le joueur, on pourrait se dire, du coup, ça doit être bizarre pour le concepteur il va faire partie du trio qui va construire le jeu. Il va y avoir le jeu, le joueur et le concepteur. Alors que par exemple, on pourrait penser que même si pour le coup tu as un avis un peu contraire là-dessus, que dans une œuvre littéraire ou dans un film, il va y avoir le concepteur et après le spectateur. Mais il ne va pas faire partie intégrante du récit. Il ne va pas être forcément...
Ah oui, clairement.
C'est l'avis que tu donnais tout à l'heure. Et pour le jeu vidéo, il va vraiment être lui-même acteur de la conception de son histoire finalement. Et il va mettre les pattes dedans, il va faire un peu sa sauce. Et du coup, on va être obligé en tant que concepteur de prendre en compte, pas grâce à nos outils, à
alors
nos
ça,
règles.
C'est limite aussi. Hein. Là, c'est un truc. Alors, je sais que pour beaucoup de gens, parfois, ils ont le reproche de ah ouais, mais pourquoi ils nous ont pas permis de faire ça ? Moi, j'aurais voulu parler à Bidule, j'aurais voulu pouvoir casser tel truc, etc. Alors, nous aussi, on aimerait bien pouvoir permettre le plus de choses possible. Il faut comprendre que chaque action que vous pouvez faire dans un jeu vidéo, il a fallu quelqu'un pour déjà la décider. Ça, c'est les game designers. Réfléchir de certes, on peut casser par exemple la vitre, mais comment, avec quoi, avec quel outil, etc. Parce qu'en fait, les mondes de jeux vidéo sont conçus à partir de zéro. C'est-à-dire qu'on décide de la physique de ces univers, on décide vraiment de toutes les lois qui le régissent, y compris le simple loi de est-ce que je touche par terre quand je marche. Après tout, je pourrais voler. Je suis dans un monde virtuel, qu'est-ce qui m'en empêche? Je pourrais passer à travers les vitres. Ben non, on décide que là, on va pouvoir la casser. Comment? Avec quel outil? Est-ce qu'une bouteille en plastique suffit? Ou est-ce qu'il faut un caillou? Ou est-ce qu'il faut... Donc, y a quelqu'un qui réfléchit à toutes ces règles-là. Après, il y a un programmeur ou parfois des programmeurs, même souvent, qui vont faire en sorte que, oui, bah, avec le caillou, la vitre se casse, alors qu'avec la bouteille d'eau, elle ne va pas se casser. Qui vont donc mettre ces règles en application. Après, il y a éventuellement des graphistes, bien sûr, qui vont dessiner la vitre, parce que même si elle peut être un peu transparente, il faut quand même lui donner une forme visuelle. Il faut aussi, parfois, justement, on l'intègre aussi à une partie narrative, parce que casser la vitre, peut-être que ça amène à un point de scénario, donc c'est en fait des dizaines de personnes qui, pour chaque action que vous allez pouvoir faire dans le jeu, mais que vous ne serez pas obligé de faire non plus, donc ça se trouve vous allez complètement passer à côté de cette vitre et vous en foutre complètement, mais il y a quand même 10 personnes qui ont bossé dessus pour que ça fonctionne. Donc faut vous dire que bien sûr qu'il y a des limites au système. De plus en plus, les machines et le travail de nos prédécesseurs aussi, hein, on utilise des moteurs parfois tout faits, c'est pas notre cas, mais c'est le cas d'un certain nombre de sociétés. En fait, on se sert, j'aime bien l'image du géant qui marche, on se sert du savoir, des recherches de plein de gens, même parfois, en rendu, c'est assez commun, on se partage les recherches sur Internet de tel programmeur de tel jeu publie ses dernières recherches, ses dernières trouvailles. Donc, c'est bien sûr qu'on n'est pas tout seul à travailler là-dessus, mais on ne peut pas tout se permettre parce que pour l'instant, on a la limite de on n'est pas si nombreux que ça. La technique ne nous permet pas toujours de tout prévoir. Et puis parfois, même simplement, on n'y pense pas. Enfin, on n'a pas pensé qu'il y ait un joueur qui a envie de casser la vitre avec une bouteille d'eau, par exemple. Donc voilà, il ne faut pas toujours nous en vouloir si tout ce dont vous rêveriez n'est pas dans le jeu. C'est juste que parfois, soit on n'a pas réussi à le faire, techniquement, soit on n'y a pas pensé, soit c'était trop compliqué et on a laissé tomber.
Pensez-y. par rapport à ce que tu disais par rapport à un sujet qui t'intéressait, il me semble, c'est justement cet aspect de si on enlève toute notion de narration préécrite et qu'on part sur l'idée de se dire que on pense avant tout à des outils, à des situations, et qu'on part complètement sur une idée de laisser le joueur faire sa propre histoire avec, par exemple, une sorte d'idée de narration procédurale qui est ce que peut permettre le jeu vidéo d'avoir de simplement se concentrer sur les outils. On laisse un ensemble de possibilités et du coup, le joueur est entièrement, pour le coup, hors du concepteur, artisan de sa propre histoire.
Alors pour moi, c'est pas ça le procédural. Alors il faut qu'on redéfinisse le procédural. Mais
le procédural en soi, c'est on crée un ensemble de règles et ces règles-là, la machine va les utiliser pour créer lui-même.
Du coup, justement, c'est la machine, c'est pas le joueur qui crée.
Et après, je sais pas. Du coup, si on peut trouver le bon terme pour ça, qu'est-ce qu'on pourrait définir comme terme pour justement avoir
c'est un outil de narration. Ça existe, hein, d'ailleurs. Ouais. Il y a des briques de narration que le joueur peut assembler pour se raconter ses propres histoires. Ça se trouve, à la limite, dans des jeux qui ne sont pas spécialement toujours super narratifs, mais les jeux plutôt de stratégie, d'ailleurs, fournissent très souvent des outils qui permettent aux joueurs de créer leur propre scénar, leur propre carte. Même tous les jeux Bethesda sont fournis avec l'éditeur qui permet aux joueurs au pluriel de créer leurs mods, qui peuvent rajouter des histoires dans l'histoire, qui peuvent éventuellement d'ailleurs ils deviennent concepteurs, ils viennent plus souvent, d'ailleurs on n'est plus joueur une fois qu'on a conçu la carte parce qu'on la connaît, donc on est forcément un peu lassé, mais on l'offre du coup aux autres joueurs.
Alors que
le procédural, c'est vraiment on crée une machine qui va dérouler de l'histoire en fonction de l'histoire ou autre chose, d'ailleurs ça peut être du terrain, en fonction de d'aléatoire beaucoup. Et donc, c'est pas forcément un outil qui permet aux joueurs de créer sa propre histoire.
Non, c'est plus, du coup, on va proposer une histoire totalement différente à chaque fois qu'on commence à explorer avec des jeux, peut-être qu'on va éviter pour frustrer certaines personnes de citer. Je pense à No Man's Sky, par exemple, qui, ou ce genre de jeu où on va simplement, à chaque lancement de partie, une nouvelle histoire va se créer grâce à la machine qui va être proposée aux joueurs.
Et du coup, je vais être très vilaine, mais ça existe depuis Elite, il y a très très longtemps.
Bien sûr. Je parle de citations modernes pour les gens. Je sais pas si.
Non, mais on peut distinguer un jeu d'un jouet, tout simplement. C'est-à-dire, un jeu, c'est quelque chose qui déroule une narration, qui la propose, même si elle peut être multiple. Et un jouet, c'est quelque chose, c'est un objet abstrait dans le cas d'un jeu vidéo, enfin d'un jouet vidéo, on va dire, mais avec lequel on peut justement fabriquer de l'histoire ou projeter ce que permet le système, on va dire. Voilà. Donc voilà, pour moi, il y a des jeux et des jouets.
Ouais. D'ailleurs, c'est bizarre de voir que les. Tu voulais dire quelque chose, Julien ?
Non, j'étais juste.
Ah, d'accord. D'ailleurs, ouais, le jouet, ça a souvent été, et ça l'est sûrement encore, un gros mot quand on fait du jeu vidéo. Si on fait un jouet, enfin, je devrais pas raconter ça, mais.
Vas-y, on veut savoir.
Ah, vas-y, vas-y.
J'ai présenté deux projets à un éditeur dernièrement, dont un qui essaye d'explorer la narration procédurale. Alors, il y a différents degrés de procédural, donc nous, c'est simplement, on veut créer des événements. Et chaque session de jeu va avoir des événements choisis aléatoirement, suivant les actions que le joueur a fait, suivant l'état du système actuel. C'est rien de très nouveau, hein, je veux dire, mais c'est ce que vous pouvez voir dans des jeux comme dans Outzer ou dans Reigns dernièrement. Je ne sais pas si vous connaissez Reigns. Je vois des petits hochements de temps en temps, mais. Justement, on nous a dit, bon, c'était pas un jeu fait pour l'éditeur. Mais clairement, on nous a dit, pour dire que c'était pas bien, vraiment pas bien, ou pas bien pour eux, on va dire, oh oui, mais ça, c'était un jouet, quoi, tu vois. Donc là, j'ai été un peu frustré de cette réponse-là, parce que, au contraire, moi, j'ai toujours fait des jeux pour l'instant qui étaient très. Je voulais faire du cinéma, moi, je voulais pas être dans le jeu vidéo au début, et après, je me suis rendu compte que, ah ben non, c'était quand même bien intéressant le jeu vidéo, on n'avait pas d'acteurs à gérer. Aller leur chercher des yaourts à la myrtille à 2h du matin parce qu'ils font leur diva, enfin voilà, ça m'est arrivé. Et donc, du coup, maintenant, je me dis, c'est vrai que clairement mes jeux ressemblent à ce que je voulais faire avant, c'est-à-dire raconter des histoires linéaires sans prendre vraiment en compte ce que pensait le joueur. Et du coup, je commence à me rapprocher de ce que toi tu essayes de faire et que tu fais d'ailleurs depuis plusieurs années, c'est-à-dire de prendre en compte justement que le joueur il est là et qu'il aimerait bien lui aussi prendre part à l'aventure, on va dire, tout simplement.
Ouais, compter son existence dans la façon dont l'histoire va se dérouler.
Donc maintenant, là par exemple, on se disait, tiens, à chaque session de jeu ça va être aléatoire, mais ça c'est pas très drôle finalement, c'est mieux de dire, bah, à chaque session de jeu on va avoir, le joueur va peut-être avoir des possibilités de créer les éléments, enfin de décider quels éléments à peu près il va retrouver dans la prochaine session. Et nous, on lui rajoute des surprises parce que c'est toujours bien d'avoir des surprises. Donc ouais, on essaye de, par rapport au procédural, moi ce qui m'intéresse le plus maintenant aussi dans le jeu vidéo, c'est pas forcément l'histoire. Le message est plus important que l'histoire elle-même. C'est un peu bizarre, là, je vais dans des trucs peut-être un peu compliqués. Mais c'est surtout le rythme, du coup. J'ai envie que le rythme soit bon. Même si je sais que je ne peux pas tout contrôler, parce que le joueur, si ça se trouve, il va s'arrêter de jouer pendant 6 mois, et donc du coup, ouais, il faut qu'il arrive à comprendre comment on joue au jeu, même 6 mois plus tard. Donc je ne peux pas contrôler tout le rythme. Mais en tant que game designer et level designer, maintenant, je m'intéresse plus au rythme qu'à l'histoire elle-même. Et là, je m'arrête après. Un de mes livres préférés, c'est La Horde du Contrevent. Parce que, faut pas que je spoil, mais parce que à un moment donné dans le bouquin, on se rend compte que l'univers est beaucoup plus intéressant que juste ce qu'on nous présentait au début. On nous présente la Horde et puis après on découvre plein de choses. Et enfin bon, c'est un livre de science-fiction, quoi. Donc c'est un gros univers. Donc voilà. Et ça, clairement, c'est du rythme pour moi. C'est-à-dire que j'ai découvert quelque chose et après, on m'amène quelque chose de nouveau et qui me donne encore plus envie de continuer l'aventure. Bon, j'ai dit beaucoup de choses. Désolé.
C'est juste par rapport à ce qu'on dit et qu'on présente différentes aussi. On a pu aborder aussi différentes façons de voir le jeu vidéo par rapport à la narration. Finalement, ça reste quand même des outils pour raconter quelque chose. Que dans notre cadre d'auteur, on utilise aussi, tu parlais de propos, le propos reste, finalement, on choisit aussi notre mode de narration en fonction de ça. On utilise la machine aussi pour, quelque part, comme moyen, comme outil de juste, est-ce que j'ai raconter vraiment une histoire purement linéaire, je veux juste dérouler comme presque un film interactif et raconter mon histoire telle quelle et sans que le joueur puisse faire autre chose à côté, ou carrément laisser le joueur avoir sa propre vision et me concentrer sur l'univers que je lui apporte et le laisser faire sa propre narration.
Oui, en tout cas, dans le type de jeu que je fais, la décision est clairement prise depuis un certain temps, c'est-à-dire que à partir du moment où moi je viens du jeu de rôle sur table, j'ai pas fait que ça, mais ça a été un de mes passages très importants dans ma vie. Et effectivement, quand j'ai pu ramener ça dans le jeu vidéo, même si ça reste une expérience différente, parce que le jeu de rôle n'a évidemment pas du tout les mêmes limites sur table, parce que les seules limites, c'est l'imagination du maître de jeu, alors qu'évidemment, la machine elle-même a ses limites et que, voilà, qu'une vraie personne n'a pas. Mais c'est vrai que malgré tout, ça pose plein de questions en termes justement de méthode d'écriture. Pour revenir un peu sur le sujet de la conférence de manière vraiment très, j'ai envie de dire, terre à terre, sur nos précédents jeux, on s'est rendu compte que la technique nous limitait énormément. On n'avait pas d'outils spécifiques réellement à la narration et au scénario. Et quand on a des arborescences extrêmement complexes à faire, où on veut par exemple se dire que la conséquence d'un choix fait par le joueur au début du jeu on veut la prendre en compte que 5 heures après. Quand on n'a pas d'outils pour faire ça, ça demande soit d'avoir un cerveau monstrueux pour avoir gardé en tête tous les choix possibles, etc. Et se dire, ah oui, tiens, la phrase N7-82, je vais la ressortir maintenant et je vais faire ces compétences maintenant. Alors que on s'est du coup mis à construire un outil spécifiquement pour ça qui nous permet de faire de la narration nodale. Donc on peut visualiser tous les choix qu'aura fait le joueur dans sa progression. Alors ça donne des trucs, il faut avoir des yeux de lynx, machin, mais au moins on peut le voir, ce qui déjà est pour nous mais miraculeux. Et ça nous a permis d'aller du coup dans une complexité narrative qu'on n'avait jamais pu atteindre jusqu'ici, et justement d'avoir beaucoup plus de choix qu'on prenait en compte, et en plus de faire un petit peu la blague au joueur de pas donner l'impression qu'il y avait une vraie conséquence à un choix. Il a décidé de faire comme ça, puis on dit rien, et puis 10 heures après dans le jeu il y a quelqu'un qui va lui dire non mais attends, je t'ai pas oublié toi. Et évidemment on l'a pas dit au joueur, on l'a laissé découvrir tout ça et qu'il ait un peu la surprise de se rendre compte que tous ces choix ont à un moment un impact ou une petite réaction de l'univers à ce qu'il a fait.
Ce qui est bien dans Reigns là, et que j'ai très envie de faire aussi dans mon prochain jeu, c'est de créer plein d'événements qui ont une répercussion. C'est-à-dire que on va dire au joueur est-ce que tu... Enfin, il va y avoir des répercussions s'il décide de donner de l'argent à quelqu'un ou au contraire de garder l'argent pour lui ou d'en faire autre chose, c'est-à-dire que carrément il aime pas l'argent, alors du coup il va créer une médaille avec juste que ce soit décoratif, tu vois. Que ça ait une répercussion plus tard, mais ce que j'aime bien dans Reigns et que vraiment je vais faire, c'est de créer des événements qui servent vraiment à rien, mais le joueur pourra pas savoir que ça sert à rien parce que comme il aura vu des événements qui ont des réactions, il croira que tous les événements ont des réactions. Donc on va bien s'amuser à faire venir quelqu'un tout d'un coup en face du joueur et de dire est-ce que tu préfères l'argent ou est-ce que tu préfères l'amour, et tu décides et le gars dit ouais bon, on verra,
vous savez à quoi vous attendre
et
maintenant.
Si ça se trouve ça n'aura aucune répercussion et c'est encore plus drôle s'il y a une vraie répercussion mais que ça arrive super tard.
Je dois avouer que oui, c'est assez fun de faire ça, mais ça demande honnêtement vraiment d'avoir un support d'outils important pour pouvoir prendre en compte les conséquences. Enfin, nous on a un jeu qui se fait à peu près en 36 heures. Donc si on doit juste se souvenir de tous les choix qu'a fait le joueur au fur et à mesure de l'histoire, en sachant qu'on a plusieurs factions, que chaque faction a sa philosophie, etc. Donc si vraiment on n'avait pas un moyen de garder en mémoire tout ce cheminement, ça serait vraiment un moyen de devenir complètement fou, parce qu'évidemment il va y avoir des réactions de personnages à un moment qui vont dépendre non pas d'un choix mais de 4 ou 5 choix différents dans des arborescences différentes, parce qu'en plus le mec peut être mort entre temps, donc évidemment dans ces cas là il va pas venir pour dire ah mais je t'en veux de m'avoir fait ça à tel moment. Donc ouais, ça, c'est bien d'avoir les outils, le support en fait, et je pense que c'est une des spécificités du jeu vidéo, c'est que alors certes la machine est une interface entre l'auteur et le joueur, enfin ses joueurs, et le joueur du coup peut lui aussi interagir sur l'histoire à travers cette machine, mais la machine donne aussi les moyens de raconter ces histoires là chose qu'on pouvait pas trop faire effectivement avec, avec le roman ou avec le cinéma. Là la machine est à la fois un outil et vraiment un moyen un média au sens premier du terme, c'est-à-dire un moyen de communication entre le concepteur et celui qui s'approprie l'histoire.
En même temps, moi je vois plein de passerelles en fait. On oppose souvent, mais en fait, par exemple, quand tu décris par exemple le fait de pouvoir faire des choix qui n'ont pas d'incidence, mais finalement tu vas enrichir l'univers lui-même. Et en multipliant comme ça, en donnant une espèce d'image de profusion, c'est pour moi quelque chose de baroque. C'est une forme d'esthétique en fait, même si c'est une esthétique qui ne se traduit que dans la narration et pas dans le visuel, mais c'est quand même une esthétique de brouiller, de faire une sorte de dynamique, des formes qui vont s'incurver, c'est-à-dire qui vont donner sur du vide. Mais ou rien du tout, mais où on va suivre quand même cette truc, et au final on a un univers comme ça un peu proliférant, un peu fractal. C'est pour moi c'est une forme d'esthétique en fait. Donc pas du tout. Moi je trouve qu'il y a plein de on peut transposer plein de choses en fait d'un art à l'autre. C'est simplement que les outils sont pas les mêmes. Mais au final je pense qu'il y a des esthétiques à l'œuvre et que chaque même si c'est pas conscient. Et que sûrement que dans un siècle, on verra l'origine du baroque dans le jeu vidéo. Ce sera tel jeu qui a tout à coup multiplié les tas de pistes et les choses comme ça. Non, mais c'est peut-être tout bête. C'est peut-être tout bêtement ça. C'est-à-dire que pour moi, je vois plein de façons de faire qui se transcrivent. Et finalement, moi qui essaie justement je suis un imposteur, j'ai travaillé dans très peu de jeux, mais des jeux qui étaient expérimentaux, et donc ça m'a permis justement d'être forcé de réfléchir à ça et de voir comment on passe de l'écrit à quelque chose qui est un scénario plus quelque chose d'abstrait, parce que ça va rentrer dans un à travers les yeux d'autrui et le savoir-faire d'autrui, et au contraire moi je trouve qu'il y a plein de choses qui concourent. Alors, excusez-moi, je suis un peu brouillon là. si vous avez capté le message, c'est...
Mais, de toute façon, je disais pas ça du tout comme un antagonisme. Hein. D'ailleurs, je milite beaucoup ici. Faites passer le message d'ailleurs pour que on soit plus le jeu vidéo entre gens du jeu vidéo et qu'on puisse parler avec les gens sérieux en bas et qu'on soit pas juste les petits rigolos qui faisons des petits Mickey à l'étage. Non, mais c'est vrai. Hein,
notez.
Je pense que justement, enfin moi, je suis ravie qu'on ait un romancier avec nous et que je suis ravie de pouvoir échanger aussi. Malgré tout, dans ce hall de savoir, avec des gens de la BD, de l'illus, du cinéma, des scientifiques. Enfin, je trouve ça passionnant comme démarche. Et je suis persuadée justement que le jeu vidéo se nourrit de tout ça, comme tous les autres arts d'ailleurs. Enfin, effectivement, comme je parlais du géant tout à l'heure, mais c'est tout à fait valable pour le jeu vidéo. Et rien ne sort de rien. Enfin, il est évident qu'on se trimballe nous aussi nos références qui viennent parfois de romans, de BD, de films, même parfois de jouets, effectivement, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Enfin, c'est du jeu de rôle. On porte avec nous toute notre culture et on crée nos jeux avec cette culture-là et on les transmet, qu'on le veuille ou non, avec tout ça aussi à l'intérieur, je crois.
Je pense qu'on peut, et je ne sais pas si on est d'accord là-dessus, mais pour beaucoup, moi, quand je suis arrivé, j'ai tout de suite eu l'impression qu'il y avait très peu de différence entre moi qui ai une formation d'illustrateur, entre un illustrateur, un écrivain, quelqu'un qui fait du cinéma. On a tout de suite mis des barrières entre les arts et le jeu vidéo, parfois, n'est même pas considéré comme un art. Ça arrive encore. Et c'est dommage. Et en fait, au final, on est simplement des auteurs et on a un outil qui est différent. Par rapport au thème, là, nous on a des outils qui sont parfois la machine, qui sont l'écriture, qui sont le dessin, la composition, etc. Mais finalement, on a toujours quelque chose à apporter on a toujours un propos qu'on vient transmettre. C'est pratiquement la même chose. Il y a très peu de différences.
Alors, j'ai presque envie de lancer un sujet, mais ça mériterait presque une conférence à part. Tiens, garde pour l'année prochaine.
Ça dépend.
L'idée que, en fait, et c'est, j'ai quelques amis illustrateurs qui pourraient confirmer, l'idée que, en fait, c'est justement la machine qui fait qu'on ne nous conçoit pas comme des artistes. Les illustrateurs qui travaillent uniquement en numérique ont mis des années avant de faire en sorte que leur travail, qui pourtant est du travail purement artistique, soit reconnu comme de l'art, parce qu'ils passaient par l'interface de Photoshop pour y arriver. Et je pense que le jeu vidéo souffre aussi de ça, c'est l'idée que la machine est... On considère que c'est elle qui fabrique le jeu, c'est pas vrai, hein. Enfin, soyons d'accord, c'est un outil, au même titre qu'un marteau pour un sculpteur, ou ce genre de choses. On travaille avec, c'est même le support aussi de l'œuvre au final, mais il va pas faire le jeu tout seul, enfin, la plupart du temps. Ça serait bien, hein, mais...
Et c'est complètement, enfin pour moi c'est un contresens, c'est une aberration de penser ça, parce que mais c'est le cas de tous les arts, en littérature pareil, c'est l'imprimerie qui a inventé la littérature. Mais c'est tout bête, mais c'est ça, il y aurait pas de musique électronique sans électronique.
Oui, pendant longtemps, on a dit que la musique électronique, c'était pas de l'art, quand même.
Oui, voilà.
J'ai pas du tout dit que j'approuvais. Hein. L'idée.
Donc,
que la machine avait une distance entre l'art qu'on jugeait être finalement un truc d'artisan.
On est totalement tributaire de l'outil. Et un livre, c'est un outil. Un livre, c'est un outil qui est d'ailleurs absolument fabuleux en tant qu'achèvement technologique. C'est une technologie qui a 500 ans et qui a un état d'achèvement parfait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le livre électronique a pas encore. Réussit pas en fait il aurait pu supplanter le livre déjà il y a plusieurs années, mais le livre c'est quelque chose d'absolument parfait en tant qu'outil en fait. Mais c'est un outil
parce que ça sent bon en plus.
Oui, ça sent bon les livres, du coup. Oui, alors que les jeux vidéo ça sent rien.
Ça dépend.
Alors bientôt peut-être
des jeux en odorama, tu sais, avec des trucs à gratter.
Ça a commencé,
Les cartouches sentent toujours quelque chose.
Ouais, avec le Nozulus Rift.
La poussière surtout.
Ouais, et puis bah c'est peut-être aussi le fait que donc il y a la machine, et puis il y a aussi le fait que il y a pas vraiment d'auteur, enfin ou alors il faut vraiment que les gens s'y intéressent beaucoup pour savoir qui il y a derrière le jeu. Pourtant nous, quand on décide qu'un personnage ne, enfin que dans nos jeux personne ne peut mourir par exemple, ou qu'il y a pas d'argent, ou enfin je prends des exemples vraiment très très simple, on va dire, mais oui, enfin très très basique, mais pourquoi je veux pas qu'il y ait des gens qui meurent dans mes jeux, c'est parce que j'ai pas envie de donner ça comme message dans mes jeux. Et pourquoi je mets pas d'argent, c'est parce que j'ai peur de faire sans le vouloir un jeu capitaliste, ou je sais pas, enfin qui pas capitaliste, mais qui donne une image capitaliste, un message capitaliste. Donc c'est vrai que j'essaye de pas mettre d'argent dans mes jeux à cause de ça.
J'ai mis de l'argent, mais l'argent, en fait, il faut tuer des gens pour en avoir, puisque le sérum, c'est ce qui est tiré des corps humains. Donc
est-ce qu'on trouve
c'est assez dégueulasse
aussi. Est-ce qu'on trouve de l'argent sur des chiens?
Oui, tu peux trouver de l'argent sur des chiens, par contre.
Bah oui,
parce que du
ils
coup,
ont
comme c'est
toujours leur
petite. C'est de l'eau que tu tires des corps. Là, pour coup, c'est assez inspiré de Dune, certes, mais c'est avec on a vraiment intégré ça dans le système monétaire, le fait que sur les corps des êtres vivants tu peux prélever effectivement de l'eau. Il y en a plus sur un humain que sur un chien parce qu'il est plus grand, tout simplement. Mais que du coup, ça demande une réflexion quand même de ramasser de l'argent sur un corps, puisqu'à la base, quand on combat des gens, ils ne meurent pas, ils sont KO. Et en fait, c'est justement en les dépouillant du sérum, donc de l'argent, qu'on les tue. Et c'est effectivement complètement intégré dans l'univers. C'est un choix qui est évidemment pas du tout anodin, parce qu'en plus c'était chiant en game design d'intégrer ça, hein. C'était des vraies questions et c'était des vraies règles à implémenter, mais il y avait une vraie raison derrière. Et bon, pareil, là ça pourrait être un sujet de conférence à part entière, de la gestion de l'argent dans un jeu, qu'est-ce que ça représente derrière, la gestion de la vie aussi. Je suis d'accord, c'est deux sujets qui paraissent anecdotiques comme ça de l'extérieur, qui en fait portent un vrai propos presque philosophique qui est jamais anodin de la part des concepteurs de jeux, en tout cas.
Et alors, ce que j'aime aussi beaucoup dans le jeu vidéo, c'est que justement on peut s'en foutre complètement, et si on veut faire un plombier qui saute sur des champignons, c'est cool quand même, quoi. Donc,
complètement,
c'est ça que j'adore.
Alors par contre, sans vouloir couper la conversation qui pourrait durer très longtemps, je pense, on va peut-être essayer de répondre à 2-3 questions avant qu'il soit trop tard.
J'aimerais bien
qu'on puisse répondre un petit peu à des interrogations. Du coup, je pense pas qu'il y ait... Voilà, il y a un micro. Si vous voulez bien vous le passer et être aimable.
Là, il y a de l'histoire. Hein.
Bonjour. Je suis devant. Sans vouloir prêcher pour ma paroisse, parce que moi je fais du jeu de rôle aussi, j'ai continué par contre.
Je continue aussi, mais j'ai plus de mal à réunir de table en fait.
Ah, ça c'est compliqué, ouais. Si je ne suis pas entièrement persuadé que le jeu vidéo soit un art, c'est pas du troll, hein, promis. Je pense que s'il y a art, c'est sur les formes ludiques de façon générale, ce qui intègre le jeu de rôle, mais aussi le jeu de société de façon générale. Parce que ce qui fait un art, c'est sa spécificité. Typiquement, l'architecture, c'est l'art des volumes. La musique, c'est l'art du son. Et je pense que le jeu, si ça doit être un art, c'est l'art de l'interactivité. Et c'est vraiment dans sa capacité, dans sa spécificité que n'ont pas les autres arts, à sa capacité qu'il a à réagir à ce que fait le spectateur, qu'il en tire une particularité. Mais je crois vraiment que ça s'étend à toute forme ludique. Et globalement, ça commence à poser des questions sur les œuvres interactives en art contemporain.
Est-ce que quelqu'un a une réponse synthétique à proposer?
Je ne sais pas s'il y avait tellement une question. En fait, ça m'avait l'air d'être une affirmation.
Juste,
ça.
Oui, mais peut-être une réaction par rapport à ça.
Non, mais en fait, je suis tout à fait d'accord. C'est la singularité du jeu. Mais en fait, c'est assez c'est fluide. Il y a pas de. C'est un continuum en fait entre la justement la narration non ludique et la narration ludique. Il y a pas une frontière claire. C'est voilà. En fait, c'est la difficulté, elle est là. C'est qu'on est dans un continuum, en fait.
Mais oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est pas la narration. Je veux dire, c'est pas parce qu'on crée des belles histoires ou parce qu'on fait des beaux graphismes, et Dieu sait qu'on essaye, mais qui va faire que le jeu vidéo sera plus ou moins reconnu comme un art, si tant est qu'il y ait vraiment une nécessité à ce que ce soit reconnu. Mais en effet, l'interactivité, c'est ça qui fait la spécificité du jeu vidéo.
Bah, en tout cas, de toute façon, c'est des arts, qu'on le veuille ou pas, parce qu'il y a de la musique, il y a des images, on en parlait un peu hier, mais et ça, qui sont des arts qui existent déjà, ça, de toute façon, on ne peut pas l'enlever. Et c'est des arts qui fonctionnent ensemble et qui, effectivement, si il y a interactivité et qu'elle devient ludique et intéressante, oui, là, ça peut devenir un autre art. Il y a une forme de métamorphose. De la même manière que le cinéma, c'est l'assemblage d'images en mouvement, plus aussi souvent de la musique, du dialogue, etc. C'est encore une autre. Enfin, on va dire que c'est une forme en plus. C'est un peu le cinéma, mais qui va encore un peu plus loin. Et oui, je suis d'accord. Le jeu de rôle peut l'être aussi. À la différence qu'il n'intègre pas forcément, que lui n'a pas forcément besoin des autres supports. On peut jouer avec de la musique en fond, mais c'est pas obligatoire. On n'a pas besoin non plus d'avoir des belles images en fond d'écran. On n'a pas besoin d'avoir. C'est encore autre chose.
Ah, je sais pas du tout si on peut allier à ça, mais ça me fait penser à une notion qu'on apprend en histoire de l'art. On parle parfois d'œuvres complètes ou d'œuvres universelles. On parlait de ça, par exemple, en art déco ou en art nouveau, quand on concevait un ensemble d'art qui devenait lui-même un art. Par exemple, une boutique où on concevait les meubles, la peinture, les affiches, etc. Et tout ça devenait un art en lui-même par rapport à son harmonie, en fait. À le fait que cette œuvre, par la multitude d'œuvres, mais en harmonie et conçues ensemble pour fonctionner, devient lui-même une œuvre. Alors, je sais pas du tout si, mais ça me fait penser à ça.
C'est un peu le mot d'ordre du dandysme, en fait, pour le coup, au 19e siècle. Un certain nombre d'auteurs de différents domaines, d'ailleurs, se sont intéressés à l'idée de transformer leur vie en œuvre d'art. En ce moment, il y a une très belle exposition sur Oscar Wilde à Paris qui aborde la vie de cet homme, qui était certes un écrivain, mais qui a voulu, enfin, dont lui disait lui-même que l'œuvre d'art la plus importante pour lui n'était pas du tout ses livres, ou sa poésie, ou ce qu'il pouvait faire, mais sa vie. Oui, c'est une démarche qui a déjà été, enfin, qui a intéressé déjà des gens.
Je sais pas, on verra peut-être qu'on pourra reparler
l'art
ça d'une
total.
Autre fois. Est-ce que tout de suite on peut enchaîner sur une autre question?
J'avais une question en fait, je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur l'idée de faire des jeux où il y aurait des choix qui n'auraient pas forcément de répercussions. Est-ce que là-dedans vous n'avez pas l'impression que vous allez en fait perdre le joueur qui va se retrouver face à des possibilités qui n'auront aucun impact derrière et qui va avoir l'impression que le jeu n'est pas fini? L'exemple que j'ai en tête, c'est Fallout 2 qui a été sorti alors qu'il n'était pas fini. Dès le début du jeu, on rencontre un perso qu'on peut garder avec soi pendant tout le truc. Le perso nous raconte qu'il a perdu sa sœur dans une attaque de bandits. Voilà. Il y a des joueurs qui ont absolument fait le jeu dans tous les sens, en long, en large et en travers, pour essayer de trouver la fille, parce que ça ressemblait beaucoup trop au début d'une quête. Et en fait, le perso de la sœur n'avait jamais été intégré, parce que le jeu est sorti complètement buggé, il manquait plein de trucs. grosso modo, pour parler un peu littérateur aussi, est-ce qu'en mettant des choix qui n'ont aucun impact, on ne met pas des check-off guns, du coup des flingues accrochées au mur, où on s'attend à ce qu'à un moment, le flingue accroché au mur, il y a un perso qui le prenne et qui s'en serve, et en fait, non, ça ne sert à que dalle, quoi. Si on fait ça en littérature, on met un flingue au chapitre 1 et en fait, il ne sert à rien du tout pendant le bouquin. On arrive à la fin du bouquin, on a l'impression que l'auteur a mis un détail inutile. Est-ce que si on fait ça en jeu vidéo, ça va pas être ça, on va pas donner l'impression que d'un détail inutile qui va servir à rien et que les gens vont croire qu'il y a une quête qui a finalement pas été intégrée dans le jeu ou un truc comme ça, quoi.
Là, l'exemple que tu prends avec Fallout 2, j'ai l'impression que c'est surtout que les développeurs n'ont pas fait attention à comment les joueurs allaient réagir à ça. Et du coup, ils ont sorti un truc gratuitement, mais ils n'ont même pas réfléchi à peut-être à ce qui allait se passer.
Apparemment, c'est vraiment c'était prévu qu'il soit intégré et ça n'a pas été fait parce que il n'y a pas eu les moyens pour finir le jeu comme il aurait dû être fini, quoi.
Mais dans le cas de Reigns, puisque c'est l'exemple que je prenais, ou même des c'est quoi, c'est Telltale, c'est ça, avec Walking Dead. Si je te dis ce choix sera pris en compte dans ton aventure, alors que des fois je te le dis pas, tu vas tout de suite être. C'est pour ça que j'ai parlé de manipulation aussi envers les joueurs, c'est que tu vas être conditionné en fait. Si je te dis, est-ce que tu préfères.
C'est pour ça que nous on le dit jamais.
Hein. De quoi ?
C'est pour ça que nous on le dit jamais.
Oui, voilà. Mais c'est bien parce que dans les Telltale, ils le font aussi pour des choses qui peuvent ne pas être vraiment prises en compte. C'est juste que ça va te conditionner et du coup ça va créer une expérience qui peut-être ne se passe que dans ta tête parce qu'en effet il se passe rien dans le jeu par rapport à ça. Mais c'est ça qui est intéressant justement. Là le problème avec Fallout c'est un autre problème. C'est vraiment, ils n'ont pas réussi à le faire donc du coup ça mène vers du rien du tout. Mais la question c'est est-ce que j'ai peur ou pas de ça ? Non, j'ai pas peur de ça parce que le but c'est de le faire bien, c'est pas de le faire mal. Donc
Juste pendant que, ça nous est marrant parce que la question que tu as posée nous a fait penser au fait que dans la vraie vie, on a plein de quêtes qui commencent et qu'on finit jamais et qu'on peut pas finir, sur lesquelles on a absolument aucun moyen d'impact. Au bar là tout à l'heure, t'as peut-être un mec bourré qui va venir te raconter sa vie, te dire c'est horrible, ma sœur est morte, machin, pareil que dans, et tu pourras rien y faire. Et t'as et j'ai envie de dire heureusement. Et on a une exigence par rapport aux jeux vidéo parce qu'on imagine que comme on est le héros, comme on est au centre de l'histoire, on peut tout régler. Mais heureusement, enfin, le jeu vidéo s'inspire aussi beaucoup de la vraie vie. Et parfois, on
c'est
permet
pas des
pas
bugs,
de tout régler.
En fait, c'est la vie.
Et voilà, c'était peut-être
la super excuse du développeur.
On vous la ressortira celle-là.
Mais écoute, parfois, en tout cas, on s'est posé la question de est-ce qu'on veut permettre aux joueurs de tout solutionner. Et en fait, nous, on a envie qu'ils puissent aller plus loin dans cette histoire, éventuellement que tu puisses en apprendre plus sur cette sœur qui est morte, etc. Mais qu'effectivement, bah non, tu peux pas la faire revenir à la vie, c'est pas possible. Nous, déjà, parce qu'il n'y a pas de résurrection dans notre univers, donc c'est mort. Mais donc, on permet c'est le cas de le dire, vraiment, on permet d'en apprendre plus, mais on peut pas résoudre complètement la solution la vie est horrible de ce pauvre homme. Et parfois, c'est bien aussi, enfin, de montrer qu'il y a des formes de limites dans la capacité d'action du joueur. Et l'exigence des joueurs est de plus en plus importante sur. Ils veulent en fait pouvoir agir sur tout, mais il faut aussi qu'ils se rappellent que, outre le fait qu'ils sont dans un monde où toutes les actions doivent avoir été prévues pour pouvoir fonctionner, il faut aussi qu'ils se rappellent que dans la vraie vie, ils ne peuvent pas agir sur tout. Et que parfois, c'est une décision, c'est une règle de jeu où on s'est dit, par exemple, nous, on ne veut pas que le joueur puisse agir là-dessus, mais jamais. Parce que je sais pas, parce qu'on pense que c'est pas une bonne idée, ou parce que justement on veut faire naître chez lui une frustration par rapport à ça, pour le faire réfléchir sur tel sujet. Donc c'est pour ça que effectivement laisser des choix ouverts à répétition qui auront pas forcément un impact, mais qui vont faire travailler le joueur va se dire mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois il me parle de ça et je peux rien faire. Peut-être que c'est justement simplement pour vous poser la question. Et c'est déjà une réussite en fait.
Une question de propos aussi, parfois de choses qu'on a envie de dire. Ou de pas dire, ou de pas parler, comme tu parlais d'argent. On va essayer d'en faire encore deux.
Je sais pas l'heure qu'il est.
Je surveille, t'inquiète.
Bonsoir. Moi, je voulais revenir un peu sur.
Parle un peu plus fort, s'il te plaît.
Pardon.
Ou plus proche, plutôt.
Alors, ça marche là. Je voulais revenir sur les choix que vous donnez aux joueurs dans les jeux vidéo. Et le fait que vous parliez tout à l'heure de vouloir faire des choix aléatoires, et est-ce que ce serait pas plutôt, est-ce qu'il vaudrait pas mieux plutôt donner un maximum de variables en fait, plutôt que d'essayer d'éliminer l'aléatoire en donnant dans votre joueur un maximum de variables qui vont influencer les choix futurs.
C'est gentil. Je suis pas sûr de bien avoir saisi.
L'idée que je veux vraiment donner, enfin que sur lequel je veux vous interroger, c'est vraiment supprimer l'aléatoire.
Bon, l'aléatoire, de toute façon, ça n'existe pas. Enfin,
surtout chez nous.
Soyons clairs, c'est un mot qui n'existe même pas. Donc, l'aléatoire, c'est forcément quelque chose qui est basé sur des règles finies, pour l'instant en tout cas. Et du coup, comment on veut essayer de faire de l'aléatoire ou du procédural ? C'est pour ça que j'utilise procédural plutôt qu'aléatoire, parce que ça montre plus qu'il y a un système et que c'est pas juste du je balance des trucs sur mon écran et puis il y a des trucs qui collent.
En même temps, un D6, le résultat d'un D6 est aléatoire, mais il pourra jamais faire 12. Hein. Donc c'est ça. Il y a du hasard, mais dans un cadre qui est limité quand même.
Mais donc, c'est ce que je disais, l'exemple où je voulais que chaque session de jeu commence par quelque chose où ce sera complètement aléatoire, entre guillemets. Je ne veux pas le faire parce qu'en fait je préférais que le joueur ait l'impression du choix ou le choix, mais l'impression du choix, c'est ça qui est bien aussi. C'est plus intéressant parce qu'il y a de l'interaction, c'est à dire qu'on fait quelque chose et on attend que le joueur réagisse de telle ou telle façon. Ce que j'aimerais faire aussi dans ce jeu là c'est par exemple le joueur a dit mon personnage il fera tel métier. Et puis ensuite, la session de jeu commence. Je vais prendre un exemple beaucoup plus simple en fait. Dans un jeu qui s'appelle Tingle Ruby, je sais plus comment, tu peux choisir le nom de ton personnage. Et donc c'est trop bien parce que tu choisis le nom de ton personnage. Enfin, quand on est habitué dans les RPG à faire ce genre de choses. Et puis au bout de 2 minutes à peu près, il y a le jeu qui te dit non mais en fait ton prénom il est vraiment trop pourrave. Je vais t'appeler comme tous les autres noms dans le jeu. Enfin c'est-à-dire je vais t'appeler Tingle, le nom du héros réel. Et ça c'est, je sais pas pourquoi je donne cet exemple-là, mais en gros c'est cool d'avoir l'impression du choix quoi. Et
là c'est vraiment une impression. Et en fait il y a une raison pour laquelle on vous laisse pas libre d'écrire vos noms comme vous voulez dans la plupart des RPG en tout cas. Les voix.
Ouais.
À moins d'avoir un peu comme les messages SNCF du bonjour Michel. Parce que voilà, comme vous pouvez vous appeler aussi bien Michel que Zorglub, à moins d'avoir un truc qui va lire péniblement le nom que vous auriez tapé, ou alors effectivement on ne prononcera jamais le nom du héros pendant tout le jeu. Donc c'est vrai que du coup, soit on vous donne un surnom, vous allez vous coller pendant tout le jeu, alors que vous avez choisi soigneusement, vous avez appelé le héros comme votre petit chat, non, en fait vous l'entendrez pas du jeu, mais c'est parce qu'on peut pas obliger les acteurs à enregistrer tous les noms possibles qui pourraient venir dans l'esprit tordu des joueurs. Donc voilà, c'est tout.
Je sais pas combien ça ferait.
Donc enfin, juste pour revenir, donc du coup l'aléatoire, c'est
déjà à prendre des noms ridicules.
C'est déjà des variables. Et après. Il faut voir si elles sont affichées ou pas pour le joueur, quoi. C'est surtout ça.
Il n'y a vraiment aucun aléatoire, ça fait partie inhérente de notre façon, enfin, même d'une obligation technique et mécanique. Le jeu vidéo, c'est de l'informatique aussi, et l'informatique, il n'y a pas d'aléatoire. C'est une des règles de...
Il y a du procédural, effectivement.
Voilà. Ouais, c'est un ensemble de règles dans lequel on va tirer, et, dans tous les cas...
Pour prendre un exemple concret, les donjons de Diablo... on dit aléatoires, mais en fait ils sont pas aléatoires, ils sont procéduraux, c'est-à-dire que on peut pas vraiment mettre n'importe quelle salle qui s'enchaîne avec n'importe quelle autre, sinon vous pourriez pas sortir des donjons. Enfin, il y a un moment où il faut bien qu'il y ait un certain nombre de règles qui sont intégrées dans les choix possibles d'enchaînement de salles pour que ça fonctionne. C'est exactement ça dont on parle en fait, c'est-à-dire que oui, il y a une forme d'aléatoire, mais qui est extrêmement cadrée par des règles qui ont été rentrées à la main par des programmeurs et des game designers. Pour que ça marche, tout simplement.
Je sais pas si c'est bien simplifié, mais quelque part, on a la linéarité où on va directement nous fabriquer la façon dont va être le donjon. On mène aux salles, on les enchaîne, etc. Et le procédural, on va simplement expliquer nous-mêmes à l'ordi comment il va enchaîner les salles avec un ensemble de règles et il va le faire. Mais il y a toujours nous derrière où il y a toujours des règles qui restent quand même des variables, etc., qui vont être toujours derrière. Il y a, enfin, si ça peut résumer.
Il y a eu des erreurs d'aléatoire comme ça, c'était dans Daggerfall, Je me souviens moi d'avoir commencé des parties. On commence dans un donjon. Les donjons étaient tous, alors là pour le coup on peut dire aléatoires, hélas, puisque donc je commençais dans un donjon qui n'avait pas de sortie. Et donc bah, c'était dommage quand même pour un jeu sur lequel on pouvait jouer des centaines d'heures. Impossible de sortir du donjon. Bah, il fallait recréer un personnage et relancer une partie depuis.
C'est peut-être un message.
Celui-là, il était, non, c'était pas de bol. Il était.
Faut aller chercher le fond. Peut-être qu'il y a vraiment un propos d'auteur derrière. Je sais pas. Est-ce qu'on fait une dernière question peut-être?
Alors, vous disiez au début de la conférence qu'on n'écrit pas pour un jeu vidéo comme on écrit pour un autre type d'œuvre. Et moi, j'ai une certaine frustration avec les derniers, avec les jeux vidéo récemment. C'est j'en ai marre de devoir tuer des gens et de devoir combattre pour faire avancer l'histoire. Et est-ce que le jeu vidéo, pour faut donner des choses à faire aux joueurs, et est-ce que les jeux vidéo, je veux dire le jeu vidéo un peu ambitieux, 3D temps réel, et pas un peu enfermé dans ce dans l'altercation et le combat physique pour faire avancer
Mais c'est pratique en fait. C'est pratique de viser quelque chose et d'appuyer et du coup il se passe quelque chose et c'est vrai que c'est pratique d'utiliser des armes pour dire je tue. Voilà. Après, bah, du coup, moi, ça, je joue plus beaucoup aux gros jeux, mais parce que j'ai pas non plus trop le temps. Donc, et donc, je joue à beaucoup de jeux où en fait, on ne tue rien ni personne.
En fait, il y a presque, ça revient un peu. Je repense à la conférence d'hier. Il y a quand même, là, on parle plus de triple A, enfin, de grosses productions, où quelque part, il y a une réalité commerciale ou de simplification, où bah, on sait que ça va marcher parce qu'un Call of ça marche, parce que. Mais c'est pas ça le jeu. Enfin, c'est pas que ça le jeu vidéo. Il y a aussi beaucoup d'autres choses.
Surtout, c'est le dernier BioShock qui m'avait fait penser ça, parce que j'avais adoré l'univers, les personnages, mais j'avais eu une très grande frustration entre l'histoire, quand il fallait avancer, quand il fallait tuer des gens. C'est un peu pareil pour Uncharted et même Tomb Raider aussi. C'est il y a une frustration, pas pour moi en tout cas.
Ah bah, je suis bien d'accord avec toi. Uncharted, je ne peux pas jouer à ce jeu-là, enfin tous les Uncharted d'ailleurs, parce que c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'est décousu en fait. Il y a des trucs qui se mettent des séquences les unes derrière les autres. Et je fais caca derrière ma caisse. Et puis ensuite. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire par je fais caca derrière ma caisse?
Moi, je ne sais pas, mais je serais très intéressé.
Je me mets à couvert derrière un énième cube graffé pour un jeu. Ça s'appelle faire caca derrière une caisse. Bon, voilà. C'est chouette.
C'est toute une culture, hein, toute vidéo. Une...
Non, mais vous apprenez des choses passionnantes.
Mais oui, je peux pas faire ça parce que je trouve ça complètement idiot. En fait, le gars, c'est un explorateur et puis tout d'un coup, il se met. Enfin, et encore plus, Tomb Raider, Lara Croft, elle est toute fragile là dans les modernes, dans les jeux modernes. Et puis bon, elle décime à peu près la moitié d'un peuple. Et puis après, elle pleure. Oh là là, j'ai un peu mal aux côtes quand même. Oui,
mais.
Tu viens de tuer des familles entières.
Est-ce que plus qu'une notion, c'est pas forcément une notion d'écriture ou, enfin, moi j'ai presque plus l'impression que c'est une notion purement commerciale. C'est aussi la façon dont on va produire qui fait que bah, on privilégie peut-être pour les grosses productions un type de jeu très cadré.
Est-ce que dans le cinéma aujourd'hui, faire un film moderne, faire une grosse production sans avoir trois explosions dans les cinq premières minutes et plusieurs morts, bah, vous n'allez pas vendre votre film. Quoi. Donc c'est exactement la même démarche. C'est, j'ai envie de dire, c'est bassement commercial. Sauf quand on s'adresse aux enfants, là on peut avoir ouvertement aux enfants. Là du coup on a le droit d'avoir effectivement des petits bonhommes rigolos qui sautent sur le dos de tortues, tout ça, ça c'est sympa. Il les tue pas vraiment, c'est une tortue, il fait que lui sauter sur le dos. Mais dès qu'effectivement on parle de jeu mature, alors en sachant que c'est quand même assez hilarant la notion de jeu mature parce que c'est quand même voilà des types avec des gros guns qui, enfin bon. La maturité là-dedans se demande un peu où elle est. Mais voilà, ça, on estime que quand on s'adresse à un public à peu près adulte, bah, il faut effectivement de l'action, il faut du combat, hein, parce que sinon les gens pensent qu'ils vont s'ennuyer, qu'ils vont s'endormir comme ça devant leur écran. Et on y est tous plus ou moins soumis en fait, même si alors le côté effectivement combat ou tuer, etc., peut être déguisé, peut être enrobé. Moi justement, pour simplement vendre le truc à mon éditeur, que je voulais pas que les gens meurent à la fin des combats qu'on pouvait avoir avec eux, sachant que dans un RPG, en plus, bah, une partie de l'expérience qui fait progresser le joueur vient traditionnellement du fait justement qu'on arrive à battre ou pas des ennemis. Et ben moi je voulais pas qu'il meure, mais il m'a fallu des jours et des jours pour convaincre mon éditeur que bah oui, le gars il est par terre, il est KO, on voit qu'il est un peu comme ça, mais il est pas mort. Pour lui c'était inadmissible, il fallait qu'on tue tout le monde, quoi. Mais j'étais quand même dans un univers post-apo où il n'y a plus d'humanité. Donc tu te dis, eh ben merde, putain, déjà on n'est pas nombreux. Et ça me paraissait complètement incohérent qu'on avance et puis qu'on bute tout le monde, quoi. Et pourtant, j'ai la chance d'avoir un éditeur qui est plutôt vraiment ouvert. Mais là, il disait, oh, mais ça fait chier, c'est pas comme dans les autres jeux. Du coup, ça rajoute des mécaniques, c'est compliqué, les gens ils vont pas comprendre. Et j'ai dû me battre juste pour ça. Donc imagine un jeu mature sans combat. Oula, c'est des mois et des mois pour discuter avec ton éditeur pour lui vendre le concept. Hein.
Et quelque part, c'est presque au public aussi. C'est le public qui a une part là-dedans. Dans le sens, c'est un cercle vicieux. Le public va apprécier beaucoup une façon de faire, un cadre d'histoire, une méthode de jeu. Si vous achetez énormément Call of Duty, ils vont faire énormément de Call of Duty. C'est presque une évidence, mais...
C'est vous qui décidez de ce que, après, vont décider nos éditeurs derrière.
Voilà.
Et après, il reste... Alors, si, il y a quand même un genre de jeu, si vous aimez les jeux, on se bat pas trop. Les jeux d'aventure, à l'ancienne, ça existe encore. Il y en a des super bien, il y en a des très très fun, il y en a des très drôles, ou au contraire, des pas drôles, mais vachement sérieux, et qui peuvent vous toucher, et qui peuvent véhiculer des histoires vraiment intéressantes et... je sais pas, The Dragon Cancer, il est par exemple, c'est une sacrée claque dans la gueule. Life is Strange, où il y a quand même pas, enfin le combat est pas vraiment au cœur de l'action, qu'on peut pas dire. Enfin, il y a vraiment plein de jeux comme ça. Les Sherlock Holmes, si vous voulez faire juste des enquêtes et c'est rigolo, vous êtes Sherlock Holmes. Enfin, il y a vraiment plein d'autres possibilités. C'est juste que par contre, ça sera rarement des triple A. Life is Strange, c'est un petit peu un ovni pour ça. Il s'est positionné à part, mais
le jeu vidéo, c'est tellement autre chose. Enfin, il y a tout. Il y a comme n'importe quel littéraire, cinéma, etc. Il y a tout, mais il y a la tête d'affiche, il y a le triple A qui est souvent très cadré, mais il n'y a pas que ça, loin de là.
Soyez curieux du coup et jouez à plein de choses différentes.
On va devoir arrêter là et un petit dernier pas de. Non, c'est bon, je pense qu'on a fait
le tour. Je veux partir.
non, mais je dois être à 7h en bas.
C'est pour ça. Voilà, merci d'être venu écouter notre conférence. J'espère que vous avez.